comment dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Après ces lookbooks, on croise ces dessins insolents, parfois un peu cradingues, dans l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Mais son graphisme d'une grande expressivité, son humour noir, son engagement corrosif ont aussi habillé les meufs cool et promené le lecteur sur le petit chemin caillouteux de sa vie de père divorcé. Repéré par Manu Larsonnet, avec lequel il a créé Les Branleurs, ce sale gosse de la bande dessinée s'attaque à un monument de la littérature française, rien moins que Les Misérables de Victor Hugo, qu'il adapte à sa sauce, décalé, déjanté, parfois grotesque, parfois punk et même trash. L'album Les Misérables d'Éric Sage, d'après l'œuvre de Victor Hugo, est tout simplement jubilatoire. Il est disponible aux éditions Glénat et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Éric Sage.
Bonjour.
C'est vrai que c'est Manu Larsonnet qui vous a soufflé l'idée de cette adaptation ?
Ah ouais, c'est vrai. C'était quand on faisait donc Les Branleurs. Il m'a, on se demandait ce qu'on allait faire comme livre respectivement. Moi, j'ai dû lui dire que des trucs inutiles. Et lui m'a dit, tu devrais adapter Les Misérables.
Ouais. Alors vous avez réagi comment à ce moment-là ? Parce que c'est un monument, Les Misérables, c'est un pavé déjà, c'est impressionnant.
Ça a été immédiat. J'ai fait, putain, ça c'est une putain d'idée, ça. Ça a été tout de suite. J'ai vu le truc, j'ai fait, putain, il faut que je le fasse ça. Mais immédiatement. En fait, j'habite pas loin du bois de Cosette vers Montfermeil, tout ça. Donc tout ça, je me sentais un peu légitime. De traiter le sujet, quoi. Ça me semblait pas être improbable pour moi.
Et voilà. Vous l'aviez déjà lu et...
J'avais vu la série télé de Robert Rosen quand j'étais môme avec Lino Ventura. Et j'aimais vraiment. Sauf quand ça arrivait aux barricades, là, ça commençait à me gonfler un peu, mais j'aimais beaucoup le début.
Ouais.
Donc je me souvenais du début et je me suis dit ça peut être pas mal. Et puis, après j'ai donc lu le bouquin.
Lu, relu? Non, j'imagine.
Je l'ai lu, pour l'adapter. Donc,
chapitre par chapitre, toujours avec un crayon à
non,
à la main.
Non, je lisais des bouts, puis j'avançais au fur et à mesure. Quand j'avais assez de matière, je pouvais me mettre à dessiner parce que j'avais la flemme de lire la suite. Puis comme ça, je voulais me préserver parce que si j'avais lu tout le bouquin en entier, je l'aurais peut-être pas fait. Je me serais dit, merde, c'est trop pour moi.
Parce que vous avez vraiment respecté la trame narrative du roman. On est presque chapitre par chapitre.
Ouais, complètement.
Ça, dès le départ, c'était votre objectif, rester au plus près de l'histoire, mais dans votre style. Parce que finalement, vous avez quand même pris beaucoup de liberté.
Bah, c'était difficile de s'écarter, en fait, du bouquin parce qu'il est bien, hyper bien construit. Donc, j'avais pas trop réfléchi. Je suis parti un peu bien en tête, quoi, comme ça, quoi.
Puis, mais quelle méthode, justement, vous avez adoptée à chaque chapitre? Vous vous êtes dit, ah, bah, tiens, ça, on va s'adapter tel élément de telle ou telle façon, tel personnage de telle ou telle façon.
Ça s'est fait vraiment, par exemple, si je dois dessiner une charrette, comme ça me saoulait de dessiner des chevaux et des charrettes, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un camion.
Pourquoi c'est difficile de dessiner
moi,
des chevaux?
Oui.
Ah, tout simplement, c'est par flemme.
Oui,
pas uniquement quand même.
Franchement, non, dessiner un cheval. Enfin, et puis en fait, quand je me suis mis à dessiner les camions, à faire des anachronismes, je m'apercevais que ça fonctionnait vachement bien en fait. Et donc, j'ai continué sur cette voie-là.
Mais les anachronismes, justement, Éric Sage, c'était pour donner une dimension plus contemporaine au récit ou c'était vraiment du clin d'œil pur et simple?
Non, c'était aussi. J'avais cette idée de faire une espèce de miroir de l'époque. Ça, c'était quand même une idée de départ. Et évidemment, avec ces anachronismes, ça me permettait de mettre dans l'ambiance pour parler de la société actuelle, quoi.
Oui, mais alors l'ambiance des Misérables, elle est quand même pas très drôle, c'est quand même très cruel, c'est très monstrueux, cette histoire de Misérables, très belle aussi, mais c'est aussi à la base dans l'idée de Victor Hugo que de dénoncer les travers de la société de son époque.
Sauf que moi, je voulais le traiter je voulais pas faire justement, ce mauvais jeu de mots, dans le misérabilisme, et je voulais montrer plutôt je voyais le truc triste, et je me disais, en le lisant, je voyais le potentiel comique.
Donc il y a un vrai potentiel comique dans Les Misérables.
Toute comédie, ça part d'un drame à la base. Hein, on se cogne et ça fait rire, on tombe d'une chaise et c'est marrant. Et donc moi, quand j'ai vu ça au début, je voyais Fantine qui subissait. Quand je disais, franchement, ça me rendait triste. Quand je lisais le bouquin, je me disais, putain, merde, quelle horreur et tout.
Ouais.
Mais en même temps, deux secondes après, je vois le côté marrant que je peux en tirer, quoi.
Oui, alors il y a une scène absolument terrible, c'est l'agonie de Fantine, qui est une des scènes les plus dures, les plus difficiles du roman. En plus, on s'attache au personnage de
l'agonie,
Fantine.
L'agonie, c'est-à-dire à quel moment
lorsqu'elle est sur son lit.
Ah oui.
Et que Jean Valjean arrive et qu'elle lui confie Cosette,
oui.
Qu'elle lui confie sa fille.
Oui.
Voilà. Et bon, vous l'avez traité de façon à la fois horrible, mais aussi on en rit, quoi. Alors, on est vraiment au comble de l'humour noir, d'une certaine façon.
C'est ça, c'est l'humour noir. Ouais, je sais pas quoi vous dire, à part.
Oui, c'est l'élégance du désespoir, en quelque sorte.
Peut-être, je sais pas. C'était pour rester dans le thème. Moi, j'allais pas faire une BD triste. Hein. Je voulais faire un truc qui fasse marrer. De la comédie, quoi.
Ouais. Et donc, alors, c'est très réussi, puisque ça commence avec Monseigneur Myriel, hein, qui carbure à la Périgourdine.
Ouais.
Ça présente la Périgourdine, d'ailleurs, dans la loi. Ouais. Il y a Jean Valjean qui lui vole non pas des chandeliers, mais l'écran plat sur lequel il regarde les matchs de foot. Mm-hmm. Il supporte le Borussia Dortmund. Pourquoi le Borussia Dortmund?
Alors, c'est un copain qui s'appelle Florent Oiseau qui m'avait soufflé l'idée, qui est un écrivain, et qui m'a dit ça comme ça. On discutait, il me fait je connaissais même pas l'équipe, mais je trouvais que ça sonnait bien. Donc voilà, tout ouais. simplement. Ça va pas plus loin que ça. Hein.
Bon, les Thénardier, vous les avez transformés en gérant d'un camping ouais. pour Ave. C'est le camping d'aujourd'hui, c'est la gargote d'hier.
En fait, ça c'est parce que je regarde, comme j'ai pris du temps pour faire le bouquin et je regardais beaucoup de films en même temps. Enfin, comme je regarde toujours beaucoup de films. Et je suis tombé sur Rosetta des frères Dardenne.
Ouais.
Et là, quand j'ai vu le film, et là j'ai vu Les Misérables, quoi. Et j'ai vu le tenancier du camping. D'ailleurs, je crois que je m'en suis inspiré pour faire Thénardier. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est un camping qui tienne. Et puis c'est beaucoup plus marrant. Même à dessiner, parce qu'un hôtel, c'est pas très marrant. Là, c'est marrant de dessiner des caravanes.
Ouais, et puis tout ce bordel, quoi. Ouais, et puis des toilettes qui débordent et que Cosette va évidemment être chargée de nettoyer.
Ouais, ça c'est pour un rappel au tourisme de masse. Enfin, je vais pas raconter tous les gags.
Non, mais voilà. Bon, il y a Cosette qui va ensuite devenir une sorte de punk qui en fait voir toutes les couleurs aux bonnes sœurs du fameux couvent parisien. Alors, je laisse les lecteurs découvrir la terrible agonie de Fantine dont on vient de parler. En fait, que ce soit grâce au roman ou aux différentes adaptations, nous, lecteurs, on a évidemment en tête des images des personnages.
Ouais.
Alexandra Gégy a promené son micro au jardin du Luxembourg, qui était d'ailleurs le jardin de prédilection de Victor Hugo, qui a d'ailleurs placé quelques scènes des Misérables.
Okay. Moi, c'est Jean Valjean. Au début, on croit qu'il n'est pas très gentil, mais en fait, après, on découvre la complexité du personnage et puis les bonnes actions qu'il fait et tout ça.
Jean Valjean, il a subi beaucoup d'épreuves dans sa vie.
Comment il s'appelle l'aubergiste, là? Le Thénardier. C'est le plus sombre de l'histoire, en fait. Hein.
La famille Thénardier, les deux me font un peu penser au fondateur de la boîte dans laquelle je travaille. C'est horrible. Donc, en fait, oui, je suis une Cosette.
Ma fille aînée, qui se plaignait tout le temps, et c'était toujours la plus malheureuse, donc on l'appelait Cosette.
Cosette, surtout que moi, j'ai lu Les Misérables quand j'étais une petite fille. Quand on voit tous les malheurs qu'elle a, et que nous, on est tranquillement dans sa maison, dans son école, forcément, ça fait relativiser.
Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Éponine, parce que je trouve que même si elle n'est pas très importante dans l'œuvre, finalement, ce qu'elle a fait, ça a quand même changé le cours de l'action. Et même si au début, elle n'inspire pas forcément la sympathie, finalement, elle se retourne et à la fin, elle fait un acte d'amour et de bienveillance pour Marius.
Peut-être Enjolras. J'ai bien aimé ce personnage qui dédie toute sa vie à une cause politique.
C'est Gavroche, puisqu'il est plus courageux que certains adultes dans le livre.
La mort de Gavroche, sur les barricades. Il danse, c'est ça, hein, il danse, il chante sur les barricades.
C'est
la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, Bassin, il est tombé dans le ruisseau. Bon, c'est poignant, c'est pathétique. Non, c'était très beau.
Ouais, mon caractère, c'est la faute à Voltaire, misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est les adentaires, c'est la faute à Voltaire.
Bon, ils y sont tous, les personnages, Eric Salch. Vous avez dû faire des choix ou vous avez vraiment voulu rester le plus fidèle à la fois à la trame, mais aussi aux différents caractères qui peuplent le récit hugolien?
Il y a tous les personnages. Il y a Thénardier, Javert, Jean Valjean. Et oui, ils y sont tous. Ouais.
Alors, Jean Valjean, qui reste quand même le personnage majeur du récit, graphiquement, comment vous l'avez imaginé?
J'avais vu Jean Gabin, donc c'est assez simplement, je me suis inspiré de lui, quoi. Je voyais jouer ce mec balèze, comme il est décrit aussi dans le livre, quoi. Donc voilà.
Oui, et tous ces personnages, vous les dessinez avec des trognes, comme on dit, qui font partie de votre trait. Hein. On le connaît évidemment, que ce soit à travers vos albums ou dans la presse, avec des grandes bouches, plus ou moins édentées, avec des nez proéminents qui souvent tombent un petit peu vers le sol. On est un peu dans le style Reiser, Vuillemin, c'est des dessinateurs qui vous ont beaucoup influencé.
Oui, complètement. Ouais. Je les lis depuis que je suis tout petit. Vuillemin, je le croise tous les lundis à Charlie Hebdo. Donc je suis super content de ça, évidemment. Et c'est mes influences. C'était des livres quand je les lisais, quand j'étais môme, même ado, enfin même après, même aujourd'hui, où je m'éclate de rire. Et je me disais, putain, moi si je fais de la BD un jour, je veux que ça soit ça. Je veux que les gens, quand ils le lisent, ils s'explosent de rire. Alors je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas,
plus dur après, si, je vous assure.
Bon, oui. Bah tant mieux. Bah c'était mon but en fait, c'était de faire vraiment marrer et pas juste on rigole, on sourit.
Est-ce que si je rapproche le dessinateur de bande dessinée que vous êtes du caricaturiste, je suis dans le vrai? Parce qu'on dit souvent que c'est deux métiers complètement différents, caricaturiste de presse. Et dessinateur de bande dessinée, quand on voit votre travail, on n'a pas cette impression-là.
Bah, je pense que les deux. Je pense que de dessiner à Charlie, c'est sûr que ça nourrit mon travail. C'est sûr. Ça fait évoluer. De suivre l'actu, c'est sûr qu'après, je peux pas dessiner les mêmes choses que si j'étais complètement dans ma bulle, enfermé. C'est un tout, quoi.
Parce que quand on est caricaturiste de presse, alors pour un quotidien, mais même pour un hebdomadaire, il faut quand même souvent réagir avec l'actualité. Donc ça veut dire qu'on a un temps limité pour pouvoir réaliser ses dessins. Quand on fait un album de bande dessinée, on a davantage de temps. Est-ce que vous réfléchissez beaucoup plus à votre dessin sur un album comme Les Misérables, Eric Selch?
Évidemment, je vais gratter un peu plus les pages. Hein, c'est pas du dessin de presse, mais... Par contre, si je choisis de l'actu, je vais faire attention à choisir une actu que je sens qu'elle va durer dans le temps. Que ce soit pas anecdotique, quoi.
Donc que ce soit représentatif de l'époque.
De vraiment de l'époque, ouais. Alors après, je peux peut-être me planter, mais je pense pas me tromper dans le livre.
Non. Alors effectivement, il y a un personnage qu'on n'a pas encore évoqué. Moi, je pensais qu'on allait en parler dans le micro-trottoir d'Alexandra. C'est Javert. Ouais. Il est quand même un personnage très important dans le récit d'Hugo, qui est un petit peu le personnage antithétique de Valjean. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression, quand on regarde la façon dont vous avez dessiné Javert, que vous avez voulu justement donner cet aspect miroir physiquement parlant aux deux personnages. En fait, on a un Jean Valjean très rondouillard et un Javert très anguleux.
J'ai pas fait exprès, mais ça se fait naturellement. Hein, ça doit être l'écriture de Victor Hugo. Puis je me suis un peu inspiré d'un pote et aussi un peu de moi dans la façon dont je pouvais me dessiner à une époque quand je faisais de l'autobio, donc je m'étais dit tiens, on va endosser ce rôle le pire, enfin pas le pire parce qu'il y a Thénardier, mais
c'est à dire que la justice elle est forcément raide, elle est forcément rectiligne, elle est forcément abrupte.
En tout cas dans Les Misérables, oui, surtout à l'époque au 19e quand il décrit le système judiciaire, on sent que c'est impitoyable, quoi. Et que les pauvres, si t'es pauvre, c'est foutu, quoi. C'est vraiment foutu d'avance. Enfin, c'est ce que montre le bouquin original, quoi. Je sais pas si c'est que moi j'ai montré dans le livre. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça, quoi.
Alors voici comment vous avez transposé la scène du procès. Hein. Donc, je résume. Il y a un certain Champmathieu qui est accusé à tort d'être le forçat Jean Valjean. Jean Valjean, à ce moment-là, est maire d'une ville qui s'appelle Montreuil-sur-Mer, sous votre contrôle, sous le nom de Monsieur Madeleine. Et donc, ce Champmathieu accusé à tort, comparé devant le tribunal. Nous sommes à la page 61 de votre album.
J'ai été charron. Je t'appelle faire tout l'hiver, même que ça caillait fort. Les chefs, ils faisaient rien que nous crier dessus. J'ai eu une fille, elle trimait au lavoir, dans le froid, la flotte, toute l'année. Son mari la battait tous les jours. Elle est morte, et voilà, c'est tout. Et je sais pas pourquoi je suis là.
Je suis Jean Valjean! Cet homme est innocent! C'est moi qui dois aller aux galères! Et je vous hais tous, bande d'ordures! Toi, le baveux, si tu veux me mettre les fers, viens faire un tour à Montreuil-sur-Mer!
Voilà, Jean Valjean qui déboule en moto dans la salle du tribunal, dans cette adaptation, on l'a compris, pas tout à fait politiquement correcte, des Misérables de Victor Hugo que vous signez, Eric Salch chez Glénat. On est quand même assez loin, là, de la langue hugolienne.
Votre montage audio, là, c'est... Je m'aperçois que ça va, j'écris pas trop mal.
Ouais, mais justement, la langue, c'est intéressant, la langue, parce qu'il y a l'écriture du dessin. Évidemment, on en a parlé, hein, la narration par rapport à l'adaptation que vous avez faite de l'œuvre d'Hugo. Mais il y a aussi ce que vous mettez dans les phylactères, dans les bulles. Comment vous avez réécrit, en quelque sorte la langue hugolienne à la sauce salche.
En fait, je m'apercevais qu'en lisant le bouquin, il n'y a pas tellement de dialogue, en fait. C'est pas très dialogué.
Non. Alors ça, c'est un problème quand on fait de la BD.
Non, justement, c'est bien parce que ça permet de faire ce qu'on veut. Et même si ça avait été dialogué, j'aurais fait à ma façon. Mais bon, ça, je sais pas comment expliquer, mais ça me vient assez naturellement quand je me mets à écrire. Si la scène, elle est bonne, le dialogue, il suit assez facilement. Quoi.
On n'est pas exactement dans l'argot, mais on est quand même dans un langage très, très roots, quand même.
Oui, mais j'ai évité, par exemple, tout ce qui est... les clichés de langage de banlieue qui se démodent très vite, en fait. Et le bleu verlan, maintenant, c'est démodé. Alors, éviter ce genre de trucs, quoi. Et de rendre ça, que ça puisse durer dans le temps au niveau des textes, quoi.
Bon.
Qu'il n'y ait pas de gros mots aussi.
Oui. Ah, c'est important, ça.
Bah oui, parce que comme dans le lookbook, j'ai insulté la terre entière pendant.
Ah, il faut changer. Faut...
Bah, j'allais
faut
pas
changer faire. Registre.
Ça aurait été ridicule que je fasse un bouquin avec 10 gros mots par page. Ça aurait été, enfin, c'est le meilleur moyen. Enfin, on serait dit, bah, le mec, il sait faire que ça. Donc, c'était une époque et voilà quoi. Donc, c'était aussi ça faisait partie du truc, quoi.
Oui, beaucoup d'onomatopées. Hein,
ouais, c'est vrai.
En revanche, alors là, on n'est plus tout à fait dans le dialogue. L'onomatopée, c'est ce qui doit compléter le texte ou c'est ce qui doit compléter le dessin?
Le dessin. Si, le dessin. Bah, s'il tape contre une porte, bah, faut que ça fasse bam, bam, bam. Enfin, c'est normal. C'est vrai que j'en abuse pas mal, mais moi, j'aime beaucoup la BD, donc, je suis très bande dessinée dans ma façon d'écrire. Donc, l'onomatopée, c'est un truc que j'aime bien. Ouais.
Où est-ce qu'ils se trouvent les misérables dans notre monde d'aujourd'hui, Serge?
Eh ben, par exemple, là, je suis venu, c'est vrai ce que je veux dire, mais je suis venu en taxi, hein, parce qu'on me propose un taxi, donc moi j'accepte. Ouais. Puisque c'est la maison d'édition qui paye. Donc, et en fait, je les ai vus le long du périph, en train de prier en plein milieu des voitures, des bouchons. Ouais, là, j'ai vu des misérables, ouais. On les voit, quoi. C'est pas difficile de les voir, quoi.
Oui, et ça arrive d'ailleurs dans le début de la BD. Il y a tout de suite ce parallèle, effectivement. Donc, on est dans les Alpes, à travers Monseigneur Myriel, et le regard que les villageois portent sur les forçats, parallèle avec le regard d'aujourd'hui sur les migrants.
Bah oui, aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est le parallèle, il était facile à faire, hein. Aujourd'hui, c'est ça, quoi. Les pauvres, on les voit comme des migrants. Enfin, bon, je vais dire des trucs un peu éculés, là, mais bon, c'est, voilà, c'est vrai, oui.
Oui, il n'a pas pris une ride, le message de Hugo.
Non, clairement pas, ouais. Non, c'est. Ça reste toujours aussi. Enfin, le monde, il est toujours aussi injuste, hein, encore plus injuste. J'en sais rien si c'est plus injuste qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était quand même très dur, hein, quand on lit le livre.
Oui, mieux vaut vivre aujourd'hui, peut-être.
Hein, c'est peut-être un peu mieux, mais je sais pas, hein. J'en sais rien. Je m'en rends pas compte, hein. Je fais de la BD, je suis dessinateur de BD, donc. Voilà, je suis privilégié.
L'une des scènes iconiques des Misérables, Éric Salche, c'est Javert qui poursuit Valjean dans les égouts de Paris.
Ouais.
Vous l'avez un petit peu déplacé, cette scène-là.
Ouais,
pourquoi?
Bah, en fait, j'avais déjà fait les égouts à un moment donné dans le livre. Et donc, je me suis dit, je vais pas refaire tant mieux, comme ça m'a obligé à inventer un nouveau truc. Et bah, j'ai préféré opter pour le métro. Et c'était plutôt marrant à faire. Et je voulais, moi, mon idée, c'était de faire comme un film d'action. Par exemple, là, en ce moment, j'ai regardé pas mal les Francis Weber, la chèvre et tout ça, les compères. J'aime bien l'idée qu'il y ait du rythme et que ça soit hyper rythmé et que la BD, ça soit pas qu'une BD marrante, ça soit aussi comme un film d'action. Qu'il y ait les deux, quoi. Pas juste un truc anecdotique avec des gags. Qu'il y a vraiment de l'action, de la bagarre. Ça me plaît. C'est ce que j'ai envie de faire.
Oui. Et c'est vrai qu'on s'ennuie pas une seconde. C'est extrêmement rythmé, effectivement, comme dans un film. Donc, il n'y a pas la fameuse scène de la poursuite dans les égouts, même si, effectivement, vous avez raison, il y a les égouts qui sont très présents. Ouais. Et ce que vous avez aussi beaucoup repris, peut-être d'ailleurs en leur accordant une importance supérieure au livre original, ce sont les rats. On a presque l'impression que les rats, ce sont un peu les compagnons de route du lecteur.
De toute façon, oui, il y a Victor, le rat, qui est celui qui narre l'histoire tout du long et qui, en même temps, subit, qui se fait écrabouiller, qui finit. Je ne vais pas raconter tout, mais oui, le rat, ça me semblait. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de démarrer le bouquin, c'est de le faire parler. Et c'était très, très pratique pour moi en termes de narration, quoi. Voilà.
La couverture, pour terminer, Éric Salche, pourquoi Les Misérables se retrouvent résumés en un seul visage, celui de Jean Valjean?
Eh ben, parce que j'ai vu beaucoup les anciennes affiches où il y avait ces patchwork de visages, les uns côté des autres, c'était un peu ringard, aujourd'hui, je trouve. Et j'avais en tête la couverture de Rank Xerox de Liberator. C'était un gros, gros visage de Rank Xerox. Et je m'étais dit, putain, faut faire un gros plan, un truc bien impactant. Donc voilà, d'où l'idée.
Voilà, hommage au passage à Tanino Liberator. Merci beaucoup, Eric Sachs. Les Misérables, d'après l'œuvre de Victor Hugo, aux éditions Glénat.
Waterman, Stéphane Mondino sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et pour le dernier café gourmand de la saison, Alain Pilo, Marjorie Bertin, Amélie Beaucourt et José Marigno. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Oh là là, dites-moi, quel enthousiasme. Dites-moi, Alain, vous avez du vide plein les poches.
Et du Champlain de Pascal Marie, qui, après une enfance en Normandie, de vagues études de lettres puis des cours de théâtre à Paris, est venu découvrir la vie dans la capitale avant de regagner la province qu'il chérit tant.
On va aussi vous faire découvrir le son de la terre et le son de la mer. Le son de la terre d'abord avec un drôle d'instrument de musique, un instrument de la famille des cuivres, même s'il est en bois, ce qui est déjà en soi assez singulier, José, le didgeridoo.
Oui, c'est un petit bout de bois qui a un succès planétaire. En plus, il est façonné par les termites, c'est le didgeridoo.
Voilà, on est au cœur de la terre et de la culture aborigène d'Australie.
Exactement.
Hein. Voilà, et la terre aborigène, on va passer à la mer, on va descendre tout au fond de l'océan. Avec notre sirène à nous, oui, oui, c'est bien vous, Amélie, hein. Vous adorez vous plonger.
Que de compliments.
Vous adorez vous plonger dans les livres et il y en a qui arrivent à flot continu dans le bureau de VMDN. On ne sait pas toujours où les ranger, vous avez peut-être une petite idée.
Eh bien, pourquoi pas dans le ventre d'une baleine, justement. En tout cas, c'est le projet de Zidrou et de Judith Vanistandal qui publie La Baleine Bibliothèque aux éditions du Lombard.
Mais pour commencer, Marjorie, vous avez pris votre masque. Alors, pas un masque de plongée pour descendre dans les abysses, rejoindre la Baleine Bibliothèque, ni même un masque de protection contre le Covid. Mais celui que vous affectionnez le plus, un masque de théâtre pour monter sur les tréteaux avec une troupe de comédiens pas comme les autres.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens,
qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive les comédiens.
Et c'est à Grignan. Grignan, c'est dans la Drôme provençale que vous êtes allé voir Fracasse, une adaptation en plein air, s'il vous plaît, par Jean-Christophe Ambert du Capitaine Fracasse, le célèbre roman de KPDP signé Théophile Gautier.
Oui, alors déjà, Grignan, le cadre est ravissant. C'est le sud de la France, les cigales, le soleil, la lavande. Et tout en haut de ce village médiéval mythique où vécut la marquise de Sévigné au XVIIe siècle, un château, non moins mythique, où se joue le Capitaine Fracasse, dont l'action se déroule aussi au XVIIe siècle. D'ailleurs, je crois que vous l'aimez beaucoup, ce roman, Jean-François.
Oui, je l'ai lu il y a près de 30 ans, et c'est vrai que comme beaucoup d'amoureux du théâtre, c'est un roman qui prend, c'est un livre dont les personnages sont des comédiens. Effectivement, il y a de la vie, du rire, des larmes, des grands sentiments et des combats. Avec des épées, s'il vous plaît.
Ah, ça devait bien vous plaire, je vous vois bien petit garçon en train de vous
trémouiller. J'ai fait trop d'escrime dans ma jeunesse.
Ah ouais. Effectivement, et puis c'est un roman populaire aussi, et c'est justement ce qui a séduit Jean-Christophe Ambert.
C'était un roman que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, et je suis retombé dessus il y a 2-3 ans. J'ai trouvé toute la matière dont j'avais envie. Mon première envie, c'était de faire un spectacle que mes enfants pouvaient voir. Donc c'était un spectacle familial, épique, généreux, populaire, mais aussi exigeant. Après, le terme populaire est souvent galvaudé. Moi, ce que j'entends par populaire, c'est quand je décide de mettre de l'énergie dans monter un spectacle, j'ai envie qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent le voir. C'est simplement prendre les spectateurs par la main pour les emmener dans la complexité.
Oui, et c'est aussi une ode au théâtre et à la littérature. Alors on sent, Marjorie, les influences de Shakespeare, de Calderon et d'Hugo aussi.
Oui, la langue est très belle. Écoutez cet extrait plein de véhémence où Matamor, le guerrier de la troupe, parce que le capitaine Fracasse, c'est aussi un hommage à la Commedia dell'arte et la comédie italienne et à ses personnages, invective un ennemi absent, puisque le Matamor, c'est un pleutre qui parle beaucoup mais agit peu ou alors de façon très ridicule.
Où es-tu que je défende les nageurs ? Que je te crie des croix sur la figure, que je t'embroche, que je te lave, que je t'effondre, que je te désentraille, que je te jette au bûcher et disperse tes cendres. Duc, tu peux te considérer comme mort et aller toi-même commander ton monument au tailleur de pierre si toutefois j'ai la magnanimité de t'accorder les honneurs de la sépulture. Je t'écraserai.
Brrr, menace enlevée et pleine de lyrisme.
Il faut dire que Théophile Gautier a mis 30 ans à écrire Le Capitaine Fracasse, un roman plein de péripéties, mais dont heureusement l'action est structurée autour de l'histoire d'une renaissance, celle du baron de Sigognac, un noble désargenté qui vit reclus dans son château, totalement dépressif, jusqu'à ce qu'une troupe d'acteurs itinérants lui propose de les rejoindre et de devenir comédien. Il accepte, l'amour s'en mêle, il s'éprend d'Isabelle.
Oui, Isabelle, encore un prénom de personnage de la Commedia dell'arte.
Et oui, et celui de l'amoureuse, elle l'aime aussi, mais le baron, pour vivre comme un comédien, doit abandonner ses principes chevaleresques. Écoutons-les.
Vous n'êtes pas raisonnable, Sigognac, puisque vous êtes comédien maintenant, comme nous, il faut savoir souffrir cette insolence.
Je ne serai jamais personne vous insulter, même si j'ai un masque.
Jurez de ne plus vous battre pour moi. Jurez-le.
Je peux pas. Si quelqu'un vous manque de respect, je le châtie.
Baron, je suis une comédienne exposée aux affronts. L'opinion du monde, hélas, c'est que toute actrice est une courtisane.
Alors Thomas Cousseau, qu'on vient d'entendre, a un jeu extraordinaire avec beaucoup de finesse. Il joue ce baron qui se métamorphose. Alors on l'entend au début, il bégaye, il est hésitant, il ne sait pas trop comment vivre. C'est un anti-héros et c'est pas facile à jouer, Thomas Cousseau.
C'est excitant et c'est compliqué parce que le metteur en scène demande des choses très très extrêmes, comme de montrer d'une façon assez forte l'enfermement et cet homme qui est incapable de communiquer avec les autres, qui a oublié comment on fait, comment on s'adresse aux autres, comment on les regarde, à quelle distance on se tient d'eux. C'est presque une bête sauvage, c'est l'apprentissage du langage, l'apprentissage de l'amour aussi.
Et quelques mots de la scénographie, Marjorie, comment c'est ?
C'est sobre et spectaculaire. Jean-Christophe Ambert a eu la bonne idée de ne pas la surcharger, puisque déjà, il faut dire qu'on a la façade imposante du château de Grignan, qui est comme un personnage à part entière, qui nous transporte à elle seule en plein XVIIe siècle. Avec un tel cadre, il suffit d'une fleur dorée savamment mise en lumière sur une poutre pour qu'on ait l'illusion d'être dans un château somptueux. Il y a 3 grands praticables sur roulette, tout en bois, qui sont tour à tour une calèche, une scène de théâtre, le comptoir d'une taverne, des robes à crinoline, bien sûr, des capes, des perruques. Les artistes virevoltent et changent de costumes, décors et accessoires avec agilité sous nos yeux.
Oui, on est vraiment dans la pure tradition du théâtre populaire, quoi.
Mais totalement. D'ailleurs, Jean-Christophe Ambert m'expliquait que le spectacle est un hommage à Roger Planchon, l'ancien directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, avec lequel il a beaucoup travaillé. Donc c'est aussi la revendication d'un artisanat. Cela sert parfaitement le propos, puisqu'on est dans une pièce métathéâtrale. La vie est un théâtre, les personnages de Fracasse l'ont compris, sans être des caricatures pour autant, comme l'analyse Aurélia Dury qui joue Isabelle à propos de son rôle.
C'est une personne assez pudique, mais quand elle est sur le plateau, elle joue une autre femme qui est beaucoup plus dévergondée, on va dire. Donc c'est assez intéressant, parce qu'elle a ses deux facettes, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui perturbe beaucoup le baron, qui comprend pas très bien comment fonctionne le théâtre et comment elle peut passer d'une personnalité assez pudique à d'un coup une personnalité qui a beaucoup moins de pudeur sur le plateau, et il confond donc théâtre et réalité.
Mais le baron va apprendre, et c'est peut-être ça le plus beau. Fracasse raconte aussi qu'on peut, en faisant preuve de courage et en étant bien entouré, toujours renaître de ses cendres.
Fracasse, une mise en scène de Jean-Christophe Ambert, d'après Théophile Gauthier, jusqu'au 21 août dans le cadre des fêtes nocturnes du château de Grignan. Merci Marchand. Exposer le son, voilà le défi de la fondation Opal en Suisse. Pas n'importe quel, le son originel, venu de la terre, celui du didgeridoo, symbole de l'Australie, au même titre que le kangourou ou le boomerang. Cet instrument mythique des aborigènes reste effectivement assez méconnu. José, une place de choix lui est donc donnée à l'événement Breath of Life, la vie n'est qu'un souffle, avec un ensemble exceptionnel de 70 instruments. C'est ni plus ni moins, José, que la plus grande exposition de didgeridoo au monde.
Oui, il paraît. De tous les instruments, en tout cas, aborigènes, il est le plus célèbre et le plus étonnant, sacré et mystique. En invitant trois aborigènes, gardiens d'une tradition musicale séculaire à jouer à la Fondation Opal, eh bien la présidente, sa présidente, Bérangère Prima, a vécu une expérience unique comme une révélation.
À un moment, ils s'arrêtent pour nous expliquer qu'ils vont chanter et danser le chant qui concerne le serpent arc-en-ciel, qui est un ancêtre créateur de leur mythologie. Et donc, ils font leur performance. Alors que le ciel est parfaitement bleu, tout d'un coup, un arc-en-ciel se dessine dans le ciel. Mais pas un arc-en-ciel tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un arc-en-ciel comme un serpent, réellement, c'est-à-dire un serpent qui est en train d'onduler dans le ciel. Alors moi, évidemment, surexcitée, je dis « Regardez l'arc-en-ciel !» Et eux me regardent, un peu étonnés de me voir m'agiter comme ça. Et au bout d'un moment, ils me disent « Oui, mais c'est normal, on vient de chanter le serpent arc-en-ciel. » Et je me rends compte que tout ça est vraiment lié à cet instrument, le didgeridoo.
Voilà, le serpent arc-en-ciel, ancêtre créateur fondamental, ressuscité donc par le didgeridoo en Suisse.
Vous aussi, vous avez goûté à la potion chamanique des aborigènes, visiblement.
Hein. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Alors, blague à part, il paraît qu'il est investi du pouvoir à l'origine de la création du monde parallèle du rêve.
Oui, et sa vibration sonore semble en tout cas avoir une puissance spirituelle. Hein,
oui, il occupe une place centrale dans le quotidien aborigène, accompagne les chants, les danses, rituels d'initiation et cérémonies. En fait, c'est un instrument, disons, vieux comme le monde. Georges Petitjean est le commissaire de l'exposition.
Le didgeridoo est un nom que tout le monde connaît, mais qui n'est pas aborigène du tout. Le didgeridoo vient donc d'une seule région d'Australie. Il vient de la terre d'Arnhem, plus précisément du nord-est de la terre d'Arnhem, donc tropicale. On peut dater l'apparition du hidaki dans les temps. La plus ancienne représentation d'un homme qui joue le hidaki remonte à quelques 1500 ans. Donc c'est de suite une peinture rupestre, mais très probablement il est plus ancien que cela. Le didgeridoo, en effet, c'est une onomatopée, c'est européen et ça vient du bruit que le didgeridoo fait.
Et le didgeridoo, c'est-à-dire le hidaki, a donc traversé les siècles pour s'ancrer dans le présent.
Oui, alors, quel succès planétaire, ce bout de bois, Peter Gabriel, Ravi Shankar, Philippe Glass et bien d'autres l'utilisent dans leur musique. On le retrouve aujourd'hui partout, dans le rock, la pop ou le funk, Bérangère Prima.
Aujourd'hui, dans la musique contemporaine, il y a des personnes qui utilisent cet instrument, des grands noms comme Jamiroquai lors de concerts. Donc effectivement, c'est un instrument qui peut parler à tout le monde. On a l'impression que c'est un peu un son qui provient de la terre, quelque chose de profond. Pour les aborigènes, c'est très codifié. Les sons, ce n'est pas simplement de la musique, c'est vraiment c'est en lien avec un ancêtre, avec un animal, avec un mouvement. Il y a un son pour l'homme assis, par exemple. C'est très, très, très codifié. Et pour eux, voilà, ce n'est pas de l'art, hein, évidemment. Et donc, ils ont un lien, oui, totalement fusionnel. Et c'est ce lien-là qu'il y a avec la terre. Hein.
Il faut dire que la voix du didgeridoo porte en elle l'âme de la terre.
Exactement, depuis au moins 1500 ans, donc que les aborigènes sélectionnent comme des bons vins, en fait, des troncs creusés, façonnés par les termites pour la beauté de leur sonorité, et cela avant de les décorer de symboles plutôt claniques. Alors, bien plus qu'un simple instrument, le didgeridoo visiblement possède aussi le pouvoir des guérisons. Georges Petitjean.
Après la visite des trois frères à la Fondation Palland en juillet 2019. Ils sont allés à Londres, au Hammersmith Hospital, et ont fait des tests qui étaient mesurés scientifiquement pour mesurer l'effet du bruit du hidaki sur la circulation de sang. Et typiquement, on met l'instrument ou la cloche de l'instrument devant sa poitrine sans vraiment la toucher, on la tient pour guérir.
Voilà, se laisser porter un peu par la vibration de didgeridoo, c'est en somme se relier à tout ce qui vit, c'est être en vie, sur Terre ou dans un rêve éveillé.
Breath of Life, la vie n'est qu'un souffle, exposition sur le didgeridoo, donc à voir jusqu'au 12 septembre à la Fondation Opale en Suisse. Merci José. Alors là, si vous n'avez pas encore compris, c'est que vous avez les oreilles bouchées, vous nous emmenez effectivement à la mer, Amélie, dans les eaux profondes, où nage donc la fameuse baleine bibliothèque. C'est le titre de cette bande dessinée que vous avez parcourue pour nous. Mm-hmm. Une histoire qui commence à la surface.
Ouais, elle commence sur la petite barque du personnage principal, un homme qui fait l'un des plus beaux métiers du monde. Un métier d'ailleurs oublié que Zidrou, le scénariste que vous connaissez peut-être pour L'élève du Cobu, a remis à l'honneur, exactement. Il est facteur de la poste maritime. Oui, car tous les facteurs ne sont pas en bicyclette.
Le métier de facteur des postes maritimes est un métier méconnu et hélas en voie de disparition, qui consiste à aller porter la correspondance qu'attendent généralement impatiemment les gardiens de phare, les gens qui travaillent sur les plateformes de pétrole, les robots qui sont sur le RIL. J'ai moi-même pratiqué ce métier du temps où je commençais la scénarisation de bandes dessinées, que j'avais quelques difficultés à nouer les deux bouts.
Notre facteur maritime part donc un beau jour déposer son courrier, et là, accident de barque, avec une baleine, et oui, c'est pas commun. Alors la baleine toute gênée s'excuse, elle ne remonte qu'une seule fois par jour respirer à la surface pour éviter les chasseurs, et il a fallu que le facteur soit sur sa route ce jour-là, pas de bol. Exactement. Avant de vous dire comment ils ont rédigé le constat, j'ai demandé à Judith Vanistendal, la dessinatrice donc, est-ce que c'est difficile de dessiner une baleine ?
En soi, ce n'est pas très dur de dessiner une baleine. C'est plutôt une forme facile, je trouve. Ce qui est dur, c'est de transformer la baleine dans un animal qui parle et qui a une certaine humanité. Faire rougir une baleine, c'est difficile. Faire sourire une baleine, c'est difficile. Faire parler une baleine, c'est difficile. Faire lire un livre par une baleine, c'est difficile, car déjà l'œil et la bouche sont positionnés complètement différents chez nous, et donc la mimique du visage est complètement différente. Donc il faut réinventer cela, et ça c'était dur mais chouette à faire. Ce qui était aussi dur, c'est d'essayer de faire rentrer une baleine dans une case de BD, car les cases de BD c'est petit et une baleine c'est gigantesque.
Allez, on veut la suite quand même, alors Amélie. Il se fait manger par la baleine, le personnage de ce facteur maritime ?
Mais non, c'est une baleine toute gentille.
Et que vous confondez avec Pinocchio.
Exactement. Non, là, elle décide, pour se racheter, de lui offrir un livre. Car vous l'aurez compris, si vous avez fait attention au titre du livre, elle cache dans son ventre la plus grande bibliothèque des mers.
Alors dessiner une baleine, d'accord, mais une bibliothèque dans une baleine, Amélie, c'est une sacrée paire de manches, non ?
Oui, c'est sûr. Judith Van Nistendal m'a raconté qu'elle avait fait appel à une amie architecte pour avoir une idée plausible de la construction d'un tel édifice qui épouserait le squelette intérieur d'une baleine. Et le résultat est superbe, on a tout de suite envie d'y prendre un abonnement, et les auteurs aussi.
Si j'étais descendu dans le ventre de la baleine, mais je suis déjà descendu dans le ventre de la baleine bibliothèque, j'ai eu cet immense privilège, au moment où je me documentais pour le livre, afin de faire quelques photos pour Judith, qui elle a le mal de mer, elle ne peut pas aller en haute mer. Et donc je suis descendu, évidemment, je suis remonté avec une édition originale en japonais des Belles Endormies de Kawabata, que je recommande à tout le monde de lire dans son lit avec une tasse de thé japonais à portée de la main.
Alors tout est fait à l'aquarelle, quoi de mieux, me direz-vous, pour dessiner les jolies nuances des langueurs océanes. Et pour parler du dessin, j'ai demandé à Zidrou ce qu'il aimait, lui, chez sa dessinatrice.
C'est un dessin puissant, qui a beaucoup de caractère, un dessin habité, un dessin presque revendicatif. J'aime beaucoup son univers, comme en général dans l'univers dessiné des illustratrices ou des dessinatrices. Et c'est ce bon courant qui nous vient essentiellement de France et qui nous amène quantité de nouvelles plumes, de nouvelles dessinatrices, fait beaucoup de bien à la bande dessinée, je pense.
Et elle, Judith Van Nistendal, qu'est-ce qu'elle aime chez son scénariste ?
Ce que j'aime chez Zidrou, c'est qu'il raconte d'une façon complètement différente de moi. Moi, mes récits ont beaucoup besoin de silence, du non-dit. Or, que chez Zidrou, ça devient complètement bavard. C'est une personne qui parle beaucoup dans la vraie vie. Son caractère est plutôt bavard. Il est très, très, très rigolo aussi dans la vraie vie. Et ça se sent dans sa façon d'écrire. Il y a une certaine chose très baroque, très lyrique, très littéraire aussi dans son style d'écriture pour cette baleine. Et il est très rigolo. Et ça, je trouve ça fantastique. Et ça m'a permis de dessiner différemment.
Judith Van Nistendal, à votre micro, Amélie. Mais alors, cette histoire, elle a aussi vécu une autre vie que seuls les plus anciens peuvent connaître. Un passé très très lointain, elle était déjà là.
Exactement, Zidrou, on avait fait un livre pour enfants il y a 25 ans. Moi, j'étais pas encore née.
Oui.
Mais des moi éditeurs aussi. Je me doute, ouais. Mais des éditeurs un peu frileux avaient censuré la fin de son histoire. Car, alors bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas connaître la fin, la baleine bibliothèque connaît un sort tragique.
Mais justement, c'est ce qu'on m'avait censuré, évidemment. Autrement dit, on ne peut pas tuer une baleine dans les livres pour enfants. Ceci dit, dans cette période moderne de cureton de gauche et de serrage de fesses, je suppose que si je représentais le même conte à des éditeurs pour enfants, on me sortirait la même réplique stupide. Elle devait mourir, malheureusement, n'en déplaise à tous mes amis, c'est assez. Elle devait mourir pour la beauté de l'histoire, pour la symbolique, pour qu'il y ait une transmission. La transmission, dans ce cas-ci, des livres, c'est triste, mais ça devait être comme ça. C'est la vie.
Oh non.
Non, faut pas être triste parce que l'histoire, elle est quand même très jolie. Vous inquiétez pas.
Ouais.
Au contraire, Judith Van Nistendal et Zidrou signent une histoire jeunesse, certes, mais ne prennent pas les enfants pour des idiots et n'essaient pas de censurer par peur de choquer leurs jeunes âmes sensibles. En fait, ce livre, c'est comme dans la vie. Il y a des choses difficiles, mais aussi il y a plein d'occasions de rire, plein de légèreté et de beauté.
La baleine bibliothèque aux éditions du Lombard. Merci Amélie. Allez, on referme le livre pour la baleine, c'est assez.
Le grand bonheur qu'a mis plein phare les projecteurs dans ton miroir. Faut bien que ça passe.
Pascal Marie, faut bien que ça passe. Un extrait de son nouvel album du vide plein les poches. Alors dites-nous Alain, quel est le cursus de ce chanteur ?
Je vous le disais, Jean-François, après une enfance en Normandie et de vagues études de lettres, il vient suivre des cours de théâtre à Paris et puis surtout découvrir la vie dans la capitale française. Très vite, il tombe sur le cabaret le piano zinc, un endroit formidable créé par Jürgen Pletsch où chaque soir, 4 heures durant, un pianiste sur une toute petite scène accompagne qui veut chanter. Soirée exceptionnelle garantie, il commence à chanter les chansons des autres et à découvrir, lui qui n'y connaissait rien ou presque, le riche répertoire de la chanson française, qu'elle soit de divertissement ou poétique. Parmi les nombreuses rencontres, il y a eu Philippe Biller et Denis D'Arcangelo, alias Madame Raymonde, et leur compagnie de théâtre de rue, le Tapis Franc, avec laquelle il allait travailler plusieurs années.
Et puis vont venir les premières parties.
Comme celle de Juliette Gréco, qui reste un très bon souvenir.
Ça a été assez drôle, en fait, elle est venue me voir en loge et elle m'a dit « ça vous dérange pas si je chante la première parce que je suis un peu fatiguée ». Et donc, en fait, Juliette Gréco a fait ma première partie. Donc ça, c'est quand même pas banal.
Petite sirène d'eau douce, le poids de...
Petite sirène d'eau douce, morceau écrite pour sa mère morte noyée, Pascal Marie, dont on poursuit donc Alain la biographie.
Oui, Pascal Marie va suivre des cours de chant, des ateliers d'écriture au studio des variétés à Paris avec l'auteur Brice Holmes et le chanteur Ignatius, et à la SACEM, la Société des auteurs et compositeurs de musique, avec le fameux parolier Claude Lemel, qui vont forger son goût pour l'écriture et vont l'amener à composer son propre répertoire. Musicien autodidacte, Pascal Marie essaie ses premières chansons dans un autre petit lieu de la chanson parisienne, le sous-sol, initié par Cathy Sabrou. Quelques années et petits boulots plus tard, il rencontre des musiciens de jazz avec lesquels il commence à faire des premiers concerts. Benjamin Bodhi, Mathias Mahler, Tatiana Mladenovic et l'enregistrement d'un premier 7 titres ordinaire. Puis avec Renaud Guilleux, Pierre-Jean Carus, Gabriel Benlolo, avec lequel Pascal enregistre l'album « Paraît que c'est joli la vie » sur des arrangements de Pierre-Jean. Une fidèle et longue collaboration avec Patrick Laviosa qui arrange et réalise les deux albums suivants, « Vivons d'Arien » et « Tout compte fait » où Sébastien Ménil viendra jouer également. Et enfin, la rencontre de Martin Leray, avec lequel ils enregistrent l'album Presque. Parmi les belles collaborations, celle de Marina Thomé, qui lui a apporté à plusieurs reprises son œil et ses conseils avisés. Aujourd'hui, quelle est la place de Pascal Marie au sein du paysage musical français et francophone ?
Une place d'artisan, c'est-à-dire que moi, la plupart de mes concerts, c'est des concerts de proximité, chez l'habitant, dans des petites associations, dans des petits festivals, dans des petits centres culturels. Donc voilà, c'est une place modeste, mais qui me va.
Du vide plein les poches, du ciel plein la caboche, pas trop de cirage, pas trop de cinoche, pour que tu t'approches sans que je m'accroche. Du vide plein les yeux, pour s'y regarder mieux.
Pascal Marie, du vide plein les poches, et dans son histoire, une collaboration importante.
Avec la chanteuse Jean-François, Caroline Loeb, pour qui il a écrit plusieurs chansons pour son spectacle Georges Sand et moi, et 3 chansons sur son dernier album Comme Sagan, que nous avions présenté avec elle ici même. Depuis 2007, Pascal Marie chante la plupart du temps en s'accompagnant au piano, et a le plaisir depuis 2011 de chanter chaque mois de juillet au Festival of d'Avignon, soutenu par Harold David et Michael Perras, d'Atypique Productions. Plusieurs premières parties, entre autres de Juliette Gréco, donc. Jacques Higelin l'avait accueilli aussi en levée de rideau, tout comme Romain Didier, Yves Jamais, le Cirque des Mirages, Aldebert, Jean-Guy Denis, Marie-Paul Bell, Isabelle Mayro ou San Severino, ainsi que de nombreux concerts en salle, en festival et chez l'habitant. Formule la plus à nu, la plus intime et la plus conviviale qu'il aime beaucoup. À propos d'aimer, dans sa chanson Amoureux, on trouve des ramoureux. Comment a-t-il eu l'idée de ce néologisme ?
C'est la rengaine, justement. C'est un peu la rengaine. Réamoureux, ça marchait pas trop bien. Alors je me suis dit, ramoureux, c'est pas le pire. Et puis on rame un peu, quoi. J'aime bien le côté rame et amoureux.
On est reparti, ramoureux. On est ramoureux. Ramoureux. On est ramoureux.
Amoureux. Pascal Marie sur son album Du vide plein les poches. Il sera sur scène ce dimanche 4 juillet au festival Bernard Dimet à Nogent, le dimanche 11 juillet à Concert en Jardin à Arles dans le sud de la France, et sa tournée se poursuit également au mois d'août. Merci Alain, merci aussi à Amélie, Marjorie et José. Voilà, c'était comme je vous le disais le dernier Café Gourmand de la saison, mais la semaine prochaine, semaine spéciale de VMDN au Festival d'Avignon. Plaisir de retrouver un vrai festival populaire de spectacles vivants sans jauge. En plus, soyez donc au rendez-vous et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
Ce samedi sur RFI,